Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Comment humaniser la mondialisation ? Tel est le propos du dernier livre de Mireille Delmas-Marty, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, juriste de droit pénal international. Pour elle, fut créée au Collège de France où elle fut élue en 2002, la chaire « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit ». Elle est aujourd'hui professeure honoraire du Collège de France où elle a enseigné jusqu'en 2011. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels « Les forces imaginantes du droit » en plusieurs volumes, « Le relatif et l'universel »,« Le pluralisme ordonné », »,« La refondation des pouvoirs » et le dernier, madame ?«
Vers une communauté de valeurs, point d'interrogation ».
Voilà. Elle est aussi la créatrice de réseaux internationaux sur Internet qui rassemble des juristes du monde entier. Enfin, précisons qu'elle est actuellement à la tête de l'Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions, lancé en octobre 2012. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invitée de Canal Academy aujourd'hui pour parler de votre livre « Résister, responsabiliser, anticiper », sorti au Seuil en janvier 2013, 197 pages qui se lisent facilement et qui abordent les effets de la mondialisation sous l'angle du droit. Un thème récurrent dans votre œuvre juridique, je citerai quelques-uns de vos livres ou articles spécifiquement dédiés à la mondialisation. Vous travaillez sur ces questions depuis très longtemps. En 2004, vous aviez écrit « Le rôle des droits de l'homme face au désordre mondial », mais ensuite on pourrait citer « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », « La dimension sociale de la mondialisation et les transformations du champ juridique », ça c'était en 2005, « La mondialisation du droit pénal » en 2006, « Mondialisation et crise du pouvoir » en 2007, le droit pénal comme éthique de la mondialisation en 2009. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos interrogations et qui nourrissent votre réflexion depuis très très longtemps. Première question, Mireille Delmas-Marty, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs la manière dont se construit le droit international depuis l'an 2000 ? Disons, quelles sont les grandes évolutions majeures du droit international depuis le début du XXIe siècle ?
En fait, il y a plusieurs modèles qui se sont superposés. Donc, on est parti de la construction des États-nations, dans la vision moderne, avec un modèle souverainiste, le droit international. International voulant dire, en fait, interétatique, à une époque où le droit est plus ou moins identifié à l'État. On conçoit mal que le droit puisse exister sans État. Donc les relations entre États sont des relations internationales. Et puis progressivement, je pense essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, commence à se construire ce qu'on pourrait appeler un droit commun de l'humanité, qui reste un horizon lointain, peut-être encore une utopie, mais qui commence à exister par fragments. Et le modèle qui est sous-jacent, ça n'est plus le modèle souverainiste, c'est un modèle difficile à qualifier parce qu'il n'est pas totalement universaliste. Le droit national n'a pas disparu, les États-nations n'ont pas disparu, mais il est une sorte d'hybridation entre le souverainisme et la vision universaliste. J'ai proposé de parler de modèle du pluralisme ordonné. Mais alors, ce qui est important à cet égard, c'est que ce modèle ne privilégie pas le droit international ou le droit interne, il les met en interaction. Et c'est pourquoi vous avez rappelé le titre de ma chaire au Collège de France, « Internationalisation du droit ». Ça n'est ni le droit interne ni le droit international, mais les interactions entre les deux. Ce qui est, pour la conception traditionnelle du droit, un facteur de déstabilisation, parce qu'on avait l'habitude de penser le droit comme une structure hiérarchique, donc assez simple finalement, et stable. Or, on entre dans une structure au niveau mondial, au niveau de l'ordre juridique mondial, qui est interactive et qui du coup est évolutive, donc extrêmement instable.
Il y a une date phare aussi dans les évolutions récentes, c'est le 11 septembre qui semble avoir marqué une autre évolution du droit. Un thème que vous avez aussi abordé, c'est juste pour clore ce premier panorama.
Il y a eu plusieurs bifurcations en fait. Il y a eu le choc de la Seconde Guerre mondiale, découvrir que des nations qu'on considérait comme civilisées jusque-là, c'était le mot qui était inscrit dans le droit international, avaient commis des actes de barbarie dont le préambule de la Déclaration universelle dit qu'ils révoltent la conscience humaine, d'où la montée d'un certain universalisme juridique autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le prolongement de cette déclaration. Et puis il y a une nouvelle bifurcation avec la fin de la guerre froide, en gros à partir de 1989, la chute du mur de Berlin, avec cette fois un effet de mondialisation pour le commerce. On crée l'Organisation mondiale du commerce en moins de 5 ans, 1994, avec un système très intégré, un système de sanctions, un système de contrôle quasi juridictionnel. Donc on a d'un côté le mouvement d'universalisation qui est plus ancien, mais qui progresse lentement, on y reviendra peut-être, et de l'autre la globalisation économique et financière qui est plus récente, mais qui va extrêmement vite. Et dans ce contexte apparaissent les attentats du 11 septembre 2001 que vous évoquez, qui constituent encore, peut-être pas une bifurcation, mais un élément de complexification supplémentaire, parce que dans la lutte contre le terrorisme, il y aurait eu deux réponses possibles. Les États-Unis pouvaient s'en référer à une cour pénale internationale, à des juges internationaux, en disant finalement les attentats du 11 septembre constitue un crime contre l'humanité, donc il faut qu'il soit jugé à l'échelle de l'humanité. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le président Bush, qui a préféré au contraire un repli souverainiste au nom de la guerre contre le terrorisme, en donnant la première place au droit national, au droit américain. Donc ça brouille encore un petit peu le panorama quand on essaye de comprendre où en sont les systèmes de droit aujourd'hui.
Alors Mireille Delmas-Marty, vous êtes aujourd'hui dans votre 72e année, vous pouvez disposer donc d'un recul sur justement votre œuvre, c'est peut-être le temps des grandes questions, et la première phrase du livre est une interrogation surprenante quand on connaît votre parcours. Vous écrivez, vous commencez par cette phrase, « Que peut le droit ?» Parole de philosophe, coup de blues.
Mais en réalité, c'est la question que je n'ai jamais cessé de me poser. Et que peut le droit par rapport à l'humanisme, par rapport à l'être humain, à la protection de l'être humain? Alors, la relation entre humanisme et droit n'est pas si évidente que cela. Dans beaucoup de civilisations, le droit n'est pas au service de l'homme, il est au service du pouvoir, de la force. Donc l'idée que le droit puisse être au service de l'homme et de l'humanité n'est pas une évidence. Mais disons qu'avec les processus que j'ai évoqués, notamment la judiciarisation des droits de l'homme, on peut parler d'un droit des droits de l'homme, l'apparition d'un droit humanitaire, l'apparition d'un droit pénal international pour éviter si possible et réprimer sinon les crimes contre l'humanité, tout cela marque l'entrée de l'humanisme dans le droit positif. C'est plus seulement un discours théorique, philosophique. L'humanisme entre dans le droit positif. Mais en même temps, et c'est mon interrogation, il n'est pas sûr que ce soit suffisant pour lutter contre les effets de déshumanisation qui sont liés à certains aspects de la mondialisation. Donc c'est au fond la question qui est récurrente finalement dans tous mes travaux, c'est à mesure que le droit se transforme, est-ce qu'il s'améliore pour autant ?
Alors c'est une très belle interrogation, et dans votre ouvrage et même dans les autres, vous évoquez cet humanisme juridique. pour un non-juriste, qu'un non-juriste placerait comme un idéal. Est-ce que vous pourriez, ou une utopie, est-ce que vous pourriez en donner une définition ?
Alors justement, je pense qu'il faut peut-être utiliser un autre terme que l'humanisme juridique, parce que l'humanisme juridique est situé à la fois dans l'espace et dans le temps. Il apparaît en Europe, à l'époque de la Renaissance, avec le retour au droit romain. Mais ensuite, il va être utilisé à des fins qui sont parfois déshumanisantes. Il est utilisé pour légitimer les colonisations au nom de la civilisation. Donc c'est l'idée sous-jacente de ces nations civilisées qui auraient une mission auprès des nations non civilisées, auprès des barbares. C'est quelque chose qui ne serait plus acceptable maintenant. Donc le terme d'humanisme juridique a suscité beaucoup de controverses. Il y a des courants anti-humanistes qui se sont développés. Il y a aussi l'anti-humanisme du marché, d'une certaine manière, dans la mesure où il considère l'être humain comme une ressource, presque une ressource comme une autre. Donc je propose dans ce livre de parler plutôt d'humanisation, c'est-à-dire d'une dynamique en cours. Je propose de passer des concepts statiques à des processus dynamiques. Et j'ajoute un adjectif qui pour moi est absolument essentiel, humanisation réciproque. C'est-à-dire que il faut éviter ce risque d'impérialisme qui se déguise sous les habits de l'humanisme. Et pour cela, il faut accepter l'idée que l'humanisation vient de toutes les cultures et au croisement peut se développer, peut progresser au croisement des différentes cultures, y compris des cultures juridiques.
La mondialisation, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à l'énoncer, a des contradictions. Ses effets sont contradictoires. On a longtemps mis en avant les effets positifs de la mondialisation, en particulier concernant la prospérité économique. Or, on se rend compte aujourd'hui que malgré cette prospérité, la diminution à l'échelle mondiale de la pauvreté, on constate qu'au contraire, les inégalités sociales augmentent et ne diminuent pas. Il y a une complexité et des contradictions que vous pointez de façon très argumentée, très clairement.
Je suis partie en fait d'une sorte d'inventaire qui n'est pas exhaustif, mais d'inventaire de quelques-unes des contradictions qui me paraissent les plus frappantes en liaison avec la mondialisation. Alors la première, c'est le contraste entre l'ouverture et la fermeture. Ouverture des frontières aux marchandises, aux capitaux, aux investissements, en gros depuis la fin de la guerre froide, mais en même temps on referme les frontières aux êtres humains,
oui, sur
en luttant contre
vous avez
les migrations.
Une belle image, oui.
Et non seulement on ferme les frontières, mais on construit des murs, on construit des barrières de sécurité. La réaction de l'Union européenne au lendemain de ce qu'on a appelé les printemps arabes n'a pas été d'ouvrir les frontières à d'éventuels réfugiés politiques et économiques. Ça a été de renforcer les barrières, de renforcer ce qu'on appelle parfois la citadelle européenne.
Ah, vous parlez d'une Europe forteresse.
Une Europe forteresse. Donc ça me paraît une contravention grave, parce que je crois qu'avec la mondialisation, on retrouve la vieille idée de Kant, d'un devoir d'hospitalité, et on retrouve l'argument que donnait Kant, qui est un argument qui n'est pas idéologique, qui est très concret. La Terre est ronde. Donc la Terre étant ronde, les hommes ne peuvent pas se disperser à l'infini. Ce qui fait qu'il faut accepter ce principe d'hospitalité. Cela étant, Kant était quand même prudent, était un visionnaire, mais c'était aussi un regard pratique qu'il jetait sur le monde. Et il ajoutait qu'il n'y avait pas d'obligation pour l'État d'accepter l'établissement des étrangers. Il faut les accueillir en amis et pas en ennemis, mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent s'établir dans le pays d'accueil. Alors là, les choses ont bougé avec la mondialisation, d'autant que d'une certaine manière, la globalisation des marchés, par exemple le marché du coton, amène une déstructuration des marchés locaux dans les pays en développement et du coup incite la population à aller chercher un travail en dehors des frontières puisque le marché local est déstructuré. Donc c'est un deuxième paradoxe en la matière, c'est que la mondialisation, d'une certaine manière, fabrique des migrations. C'est la formule employée par la sociologue américaine Saskia sa scène. Et je crois qu'elle est une interpellation sur la question de savoir comment traiter l'immigration à l'heure du droit global. Alors ça, c'était pour moi la première contradiction, peut-être la plus marquante. Mais il y a aussi celle que vous avez évoquée, contradiction entre la prospérité mondiale, qui est en progrès, et les exclusions sociales qui ne régressent pas, les inégalités qui même augmentent. Et là, c'est un effet peut-être moins de la mondialisation en elle-même que des mécanismes, des processus qui ne se mettent pas en place à la même vitesse.
Alors voilà, vous pointez bien du doigt ce problème, cette contradiction entre les différents systèmes de droit qui deviennent concurrentiels, qui n'avancent pas à la même vitesse par rapport à la mondialisation.
Voilà, je crois que ça c'est une idée importante, un constat en tout cas important, c'est que la mondialisation progresse plus vite pour le marché que pour les droits sociaux. Les droits sociaux sont en quelque sorte renvoyés aux États. Donc tout ce qui relève du commerce est traité au niveau mondial. Quant aux droits sociaux, aux États de se débrouiller. Mais en même temps, les États se trouvent en concurrence les uns avec les autres pour attirer des investissements. Donc ils n'ont pas la marge de manœuvre qu'ils pouvaient avoir à l'époque antérieure. Il faut qu'ils soient compétitifs. Il faut qu'ils aient un droit compétitif. Et voilà qu'on commence à voir apparaître une sorte de marché des droits qui limite d'autant la capacité pour les États d'assurer les droits sociaux.
Vous dites qu'il y a une véritable dissociation entre ces différents droits, que l'objectif de l'OMC est assez différent, mais surtout qu'il a des moyens que n'ont pas les droits nationaux.
Voilà, il y a une sorte de distorsion. Alors, l'OMC, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été créée en 1994 avec déjà un mécanisme quasi-juridictionnel de contrôle et des possibilités de mesures qui sont de véritables sanctions, que les États acceptent parce qu'ils souhaitent faire partie de l'OMC. La Chine est entrée récemment dans l'OMC, les États-Unis et l'Europe en font partie depuis longtemps. Donc là, il y a une intégration juridique et normative qui s'est faite extrêmement vite.
Et efficace, vous dites.
Et de façon efficace. Alors que pour les droits sociaux, l'intégration à l'échelle mondiale est extrêmement lente. L'Organisation internationale du travail est pourtant la plus ancienne. Elle date de 1919. Mais elle n'a pas les moyens de l'Organisation mondiale du commerce. Donc on est renvoyé à un système juridique essentiellement qui reste essentiellement national, et pour les raisons que j'indiquais, ce système juridique est en concurrence avec ceux des autres États, ce qui est une sorte d'incitation à une vision minimaliste des droits sociaux.
Et on n'a pas conscience de cela dans notre quotidien.
Non, parce qu'on met un peu tout dans la catégorie mondialisation. On ne connaît pas suffisamment, parce qu'il faut dire que juridiquement c'est très complexe, on ne connaît pas suffisamment l'état de fragmentation de ce droit mondial. Le droit mondial commence à émerger, mais secteur par secteur. Et en plus, ça c'est la fragmentation horizontale, je dirais, le secteur du commerce, le secteur des droits de l'homme, celui de l'environnement, celui du travail, etc. Mais il y a aussi une fragmentation verticale entre les niveaux d'organisation juridique, niveau national, niveau régional, on connaît bien l'Europe, mais il y a aussi des structures régionales un peu partout sur les différents continents, et puis fragmentation avec le niveau mondial. Donc, c'est extrêmement difficile pour le non-juriste, et pour le juriste aussi, je dirais, d'avoir une vue d'ensemble de ces différents phénomènes et de pouvoir concevoir comment améliorer autant que faire se peut les mécanismes d'humanisation par le droit.
Alors donc, pour reprendre un petit peu l'explication linéaire du livre, de la réflexion, vous avez pris donc l'exemple des flux migratoires, des exclusions sociales, de l'environnement, des crimes contre l'humanité qui continuent, et donc vous appelez à une plus grande responsabilisation des personnes qui ont les leviers de commande.
Oui, exactement. Je propose au fond un principe qui serait assez simple en théorie. Ça ne veut pas dire qu'en pratique ce soit facile à mettre en œuvre, loin de là. L'idée d'une responsabilité, que tout acteur qui a un pouvoir global soit responsable des effets de ce pouvoir quand il l'exerce. Alors ce qui rend l'application pratique particulièrement difficile, c'est que ces acteurs titulaires d'un pouvoir global, ce sont les États, notamment les grandes puissances, les puissances qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité, ou les puissances émergentes, comme la Chine ou le Brésil ou l'Afrique du Sud. Et cette mise en cause de la responsabilité des États est extrêmement difficile parce que le droit international reste marqué par les relations de pouvoir. Donc ceux qui ont le plus de pouvoir sont ceux qui échappent le plus facilement à la mise en cause de leur responsabilité. On commence néanmoins à responsabiliser les États dans certaines régions. Je pense à l'Europe ou à la région d'Amérique latine, potentiellement peut-être par la suite aux États de l'Union africaine, avec les cours régionales de protection des droits de l'homme, qui peuvent condamner un État pour violation des droits de l'homme, ce qui est quand même en soi quelque chose de très nouveau et de très révolutionnaire par rapport à ce qu'on a pu connaître avant la Seconde Guerre mondiale. Cela étant, les États ne sont pas les seuls titulaires d'un pouvoir global. Je crois qu'en deuxième position, quelquefois même au même niveau que les États, il faut penser et parler des entreprises transnationales. Leur budget est supérieur parfois à celui de beaucoup d'États. Alors, s'agissant des entreprises transnationales, il n'y a pas l'équivalent des cours régionales des droits de l'homme. Le paradoxe, c'est qu'une entreprise peut aller devant la Cour de Strasbourg, par exemple, si elle est victime d'une violation de ses droits à une procédure équitable, dans un procès quelconque, mais si elle contribue ou participe à la violation de droits fondamentaux, ce qui arrive parfois dans les pays émergents en liaison avec l'exploitation des ressources naturelles, il y a des atteintes aux droits de la population, et là, il n'y a pas de cour internationale devant laquelle on puisse porter le litige. Donc on est ramené à une responsabilité devant les juridictions nationales. Or la juridiction du pays où se produit le dommage, quand il s'agit d'un pays émergent, a peu de moyens pour poursuivre et pour mettre en œuvre la responsabilité d'une grande multinationale. Ce qui fait que la seule possibilité sur le plan juridique à l'heure actuelle, c'est essentiellement l'idée de la compétence universelle de certaines juridictions dans certains pays. C'est le cas du droit américain qui est parfois de compétence universelle et qui permet alors de poursuivre et de condamner, pas pénalement, mais de condamner à ce qu'on appelle des dommages d'intérêt punitifs. Donc il y a l'idée de punition des entreprises ou des personnes physiques ou morales qui transgressent les droits fondamentaux. Mais ça reste très insuffisant. Il y a toute une réflexion à mener donc sur le processus pour responsabiliser les titulaires de pouvoir global à l'échelle globale.
C'est un des moyens avancés pour résister à la déshumanisation de la mondialisation que vous dénoncez.
Oui, alors c'est un des moyens. Je parle aussi, pour résister à la déshumanisation, de l'importance des acteurs civiques, des citoyens. Là aussi, il y a une sorte de paradoxe, puisque les acteurs civiques, ce sont les plus faibles, en apparence, par rapport aux acteurs économiques ou par rapport aux États. Et en même temps, on constate que ce sont eux qui ont plusieurs fois mis en mouvement, créé une dynamique de transformation du droit international. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'une réflexion qui est amorcée maintenant, qui était philosophique pendant longtemps, mais qui commence à devenir juridique, d'une citoyenneté qui soit pas seulement nationale, mais qui puisse superposer des citoyennetés régionales. On a maintenant dans le traité de Lisbonne une citoyenneté européenne. Elle existe d'ailleurs depuis plus longtemps que le traité de Lisbonne. Mais le traité de Lisbonne a créé une action d'initiative citoyenne qui est quelque chose de nouveau. Et puis, la clé sans doute d'une véritable mondialisation organisée, soit pas simplement un vaste désordre où le plus fort prend le pouvoir, ce serait une citoyenneté mondiale, l'idée d'une citoyenneté à l'échelle mondiale. Et je crois que la question est liée à la façon dont on réussira ou dont on échouera dans le traitement des migrations de populations dont nous parlions au début.
Le cœur du sujet, de l'avenir, les clés sont dans la résolution de ces problèmes de flux migratoires.
C'est une des clés en tout cas. Mais ça ne résout pas tout, car la lutte contre la déshumanisation suppose aussi qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par l'humanité à protéger. Et là, il y a toute une réflexion qui peut se construire, se développer à partir du droit des droits de l'homme, à partir notamment du concept d'humanité tel qu'il apparaît dans la définition du crime contre l'humanité. Et puis il y a une réflexion qui devient pressante, qui concerne l'humain, mais dans sa relation avec le vivant non humain. Au fond, l'humanisme il s'est construit un peu sur une vision séparatiste. Il y a l'homme, et puis il y a le reste, la nature et du vivant. Et une vision séparatiste assez anthropocentrée, c'est-à-dire que l'homme maîtrise la nature, l'utilise à son profit. Or, on découvre maintenant...
Avec la neurobiologie, avec toutes les avancées sur le vivant dans la science, on arrive à de nouvelles questions que les juristes essaient de traiter.
Avec les problèmes posés par l'environnement, on s'aperçoit qu'il y a une interdépendance entre le vivant humain et le vivant non humain. Donc on commence à réfléchir par exemple sur la création d'un crime d'atteinte à la sûreté de la planète et d'atteinte à l'équilibre de la biosphère. Il ne s'agit pas de tout criminaliser, ce qui serait une source d'arbitraire presque certaine, mais il s'agit d'essayer de préciser ce qui doit être préservé dans le vivant non humain, l'idée qu'il y ait une sorte de devoir des êtres humains parce qu'ils ont la conscience et l'intentionnalité de mettre en place une certaine préservation du vivant non humain. Ça fait partie de la réflexion d'ensemble que j'ai essayé de proposer sous le terme « résister à la déshumanisation ».
Pour terminer, vous avez voulu mettre en avant également la nécessaire anticipation des risques à venir. C'est le troisième volet de votre ouvrage. Vous dites que nul ne sait si les monuments aux morts seront un jour remplacés par des monuments aux générations futures, mais on observe déjà que la représentation traditionnelle du droit, identifiée à l'État et conjuguée au présent, ne rend pas compte de la mondialisation actuelle caractérisée non seulement par l'extension du champ juridique dans l'espace, mais aussi par une dilatation des effets dans le temps. Que les risques soient imputables à la nature, à la technique ou au comportement humain, ils marquent le passage d'une communauté nationale construite essentiellement sur l'histoire à une communauté mondiale qui se projette vers l'avenir. C'est le fameux objectif que vous avez mis en lumière avec l'atteinte d'une commune, d'une communauté de valeurs.
Oui, et c'est vrai que le passage d'une communauté nationale à une communauté mondiale entraîne une modification de la relation au temps. C'est ce que vous venez de citer. La communauté nationale se construit essentiellement sur un passé commun, une histoire commune. Il n'y a pas d'histoire commune à l'échelle mondiale.
Et là, c'est la projection dans l'avenir.
Mais il y a une projection dans l'avenir qui accompagne sans doute la globalisation des risques. Ce que disait déjà Habermas, le philosophe allemand, il y a quelques années. La globalisation des risques a uni les êtres humains en une communauté involontaire de risques. Et ce que je disais à l'époque, et je le pense toujours, c'est qu'une communauté ne peut pas rester seulement involontaire. Il faut réfléchir sur les moyens de la transformer en communauté volontaire. Donc sur les moyens d'intégrer le futur. Alors, on voit apparaître dans le vocabulaire juridique des expressions comme ce que vous avez cité, génération future. ou alors des adjectifs comme développement durable ou paix durable qui obligent à faire entrer l'avenir, tout incertain soit-il, ou parce qu'il est incertain, dans la judiciarisation des pratiques. C'est une question extrêmement difficile parce que, bien sûr, il faut tenir en compte des générations futures et du vivant non humain et de la survie de la planète et de l'équilibre de l'écosystème. Tout cela se conjugue au futur, mais il faut aussi tenir compte du présent, c'est-à-dire des exclusions sociales, la lutte contre la pauvreté, l'intégration des migrations, la lutte contre le crime. Donc on ne peut pas uniquement anticiper, il faut que l'anticipation soit compatible avec la réponse aux problèmes présents. Et il faut même conjuguer le futur et le présent avec le passé, parce qu'on ne peut pas ignorer l'histoire. Quand on demande à des pays qui n'ont pas connu la croissance ou qui l'ont oublié, de faire des efforts pour sauver l'environnement pour les générations futures,
et ils sont pas d'accord.
C'est difficile pour eux de l'accepter. Sauf si les pays développés, qui ont une part de responsabilité historique en quelque sorte, dans la pollution et dans un certain nombre de problèmes environnementaux, sauf si ces pays développés acceptent de participer à l'effort financier que suppose un développement durable pour être en même temps équitable. Et je dis qu'en réalité, on devrait utiliser la double formule, développement durable et équitable.
Vous expliquez que justement, les solidarités de demain entre les États sont aussi à inventer. Elles semblent bien loin par rapport à l'ampleur des problèmes posés.
Oui, cette idée de solidarité me paraît très importante et je ne crois pas qu'elle mette en cause le principe de souveraineté. Elle met en cause la façon dont on concevait la souveraineté, c'est-à-dire comme une souveraineté absolue et enfermé dans les frontières nationales. Il me semble qu'on pourrait dire, plutôt que souveraineté partagée, parce que partagée, ça veut dire diviser, ça veut dire rétrécie, on devrait parler de souveraineté solidaire. En ce sens, il y a un ajout, une extension. Les États sont souverains pour défendre leurs intérêts nationaux, mais aussi pour défendre l'intérêt commun de l'humanité, pour défendre les intérêts mondiaux. Loin de réduire la souveraineté, on l'augmente de cette référence aux intérêts mondiaux. Alors, ça peut paraître un rêve, et c'est sans doute encore à l'heure actuelle un rêve, et il n'est pas du tout garanti qu'on arrive à ce résultat d'une souveraineté solidaire au lieu d'être solitaire. Mais je crois que c'est un rêve nécessaire.
En tout cas, c'est un beau pari, c'est un rêve nécessaire, et on en a tous besoin de se projeter dans l'avenir. Et vous terminez, vous concluez sur ce passage. Qu'il s'agisse des entreprises, des acteurs civiques et des experts scientifiques, la volonté humaine reste la clé pour réaliser, par une série d'efforts multiples, animés d'un même élan, ce bond en avant qu'Henri Bergson évoquait à propos de l'idée de justice. Ce bond en avant est aussi un bond dans l'inconnu. Il appelle à supposer possible ce qui est effectivement impossible dans une société donnée. Autrement dit, la volonté doit être portée par une espérance, source d'inspiration et d'énergie. Pour une humanité prise entre la culture de la catastrophe et celle du surhomme, que nous annoncent déjà les courants trans ou post-humanistes, l'espérance d'humaniser la mondialisation appelle un droit apte à jouer pleinement un triple rôle, résister, responsabiliser et anticiper. En somme, un droit en devenir pour une humanité en transit, confiante en son destin.
C'est une utopie, mais je la crois réaliste.
Eh bien, merci beaucoup, Mireille Delmas-Marty.
Merci à vous.
Retrouvez Mireille Delmas-Marty sur Canal Académie à propos de son parcours, à propos de son épée d'académicienne et sur la plupart de ses ouvrages récents.